Lionel, bonjour.
Bonjour.
Nouvelle émission d'En route vers les étoiles. Il y a peu, vous nous aviez fait une émission consacrée à Vesto Slipher, qui était contemporain d'Edwin Hubble. Alors, autant s'intéresser aussi, pas à son maître, mais à ce collègue Edwin Hubble, et à une nuit très particulière.
La nuit du 5 octobre 1923. Alors, on est au début du XXe siècle, hein, et il y a ce qu'on appelle le grand débat, entre guillemets, hein, c'est vraiment le grand débat, c'est un débat qui va opposer deux clans parmi les astronomes. Il y a les partisans de... Les nébuleuses sont toutes dans notre galaxie. Alors je parle des nébuleuses, par exemple, dans le catalogue de Charles Messier.
Oui.
M31, M33, M104. Toutes ces nébuleuses-là. Et donc tout le monde dit... Enfin, un des clans dit tout ça, ce sont des nébuleuses qui appartiennent à la Voie lactée. Et il y en a d'autres qui disent non, certaines d'entre elles sont des galaxies à part entière et elles ne sont pas dans notre galaxie, elles sont bien plus loin et d'un seul coup l'univers n'a plus du tout les mêmes dimensions.
Mais oui, ça change tout.
Le cosmos n'est pas réduit à la Voie lactée, ça va bien au-delà. Deux découvertes permettront de choisir entre ces deux clans-là, entre ces deux hypothèses. Alors, il y a l'étude des étoiles variables qu'on appelle les céphéides, ça c'est par Henrietta Leavitt. Et il y a l'obtention et l'interprétation des spectres, l'autre version de la lumière, par Vesto Slipher, dont on a parlé très récemment.
Eh
bien, c'est Edwin Hubble qui va pouvoir utiliser ces deux découvertes fondamentales pour élaborer une toute nouvelle cosmologie et donner une nouvelle dimension à l'univers. Mais surtout répondre à la question. Toutes ces nébuleuses-là sont dans notre galaxie
ou
ce sont des galaxies bien à l'extérieur?
Eh ben, on va y répondre dans quelques instants. On s'y retrouve après une légère pause. Voilà, on va parler aujourd'hui avec Lionel d'Edwin Hubble et de cette nuit du 5 octobre 1923. Et à propos justement de cette nouvelle cosmologie que va établir Edwin Hubble.
Et pour cela, on va partir à la chasse à une certaine catégorie d'étoiles qui sont les étoiles variables. Mmh. Les étoiles variables, en fait, on les appelle comme ça parce que leur luminosité varie dans le temps. Une des étoiles qu'on a vu varier depuis longtemps, c'est l'étoile Omicron dans la constellation de la Baleine. Alors son petit nom, c'est Mira, Mira Ceti.
C'est très poétique en fin de compte, hein, tout ça. C'est assez marrant.
Et donc, on trouve des traces d'observations européennes en 1576. Depuis, alors à l'époque, on constatait juste que c'était une variable, une étoile dont la luminosité variait dans le temps, c'est tout. Bon, depuis, on en connaît bien plus. On sait que c'est une étoile de type Soleil. Donc elle est de la masse du Soleil, ni plus grosse ni moins grosse, devenue une géante rouge. Ça veut dire qu'elle est arrivée déjà dans presque à la fin de sa vie. Elle passe dans une deuxième phase de sa vie. Et cette phase-là est une phase un peu variable avant d'enclencher d'autres étapes et puis de finir sa vie. Donc on est quand même à la fin de vie d'une étoile de type Soleil quand on en est à ce type, cette variable-là, cette variabilité-là. Donc Mira Ceti, on savait depuis très longtemps que c'était une étoile variable. Dans les années 1780, John Goodrich, lui, il reçoit la médaille Copley de la Société Royale pour l'interprétation des variations de l'étoile Algol. Et là, c'est pas du tout le même principe. C'est pas une étoile comme le Soleil arrivée en fin de vie qui a des soubresauts de luminosité. C'est simplement deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre.
Et ça fait des éclipses.
Et il y en a une qui passe devant l'autre.
Ouais.
Et qui ne l'éteint pas, mais ça fait des éclipses. Donc lorsque l'étoile la moins lumineuse passe devant l'étoile la plus lumineuse, elle en cache une partie. Et on a l'impression à l'œil nu que... Ah bah oui, cette étoile-là est bien moins lumineuse que normalement. Et donc là, on a ce qu'on appelle des variables à éclipse. Donc, les étoiles ont une luminosité qui reste constante, elles ne sont pas encore arrivées en fin de vie, elles ne deviennent pas variables en elles-mêmes, mais c'est simplement si elles s'éclipsent mutuellement. Et donc là, il y a un autre type de variable. On a aussi découvert, John Goodrich, la variabilité d'une étoile dans la constellation de Céphée. C'est l'étoile Delta. Alors les Grecs donnaient des lettres de leur alphabet aux étoiles. Alpha, c'était la plus brillante de la constellation. Donc on a Alpha de la Lyre, Alpha du Cygne, Alpha de Céphée. Et puis il y a Beta, Gamma, Delta. Et puis des fois, ça va très loin dans l'alphabet parce qu'il y a quand même pas mal d'étoiles dans chaque constellation. Et on en voit quand même pas mal à l'œil nu lorsque le ciel est bien noir. Donc figurez-vous que l'étoile Delta de la constellation de Céphée est une étoile variable. Maintenant, on sait que Delta Céphée, ça est devenu, on va dire, un nom générique pour toute une famille qu'on va appeler les céphéides.
Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres émissions, effectivement.
Exactement. Alors, l'étude des céphéides a été réalisée par une astronome qui travaillait à l'observatoire de Harvard sous la direction de Edward Pickering, c'est Henrietta Leavitt. Alors, elle a suivi et mesuré les luminosités de 1500 étoiles dans le petit nuage de Magellan. Alors, c'est une galaxie satellite de la Voie lactée. Alors, satellite, ça veut dire que c'est une galaxie qui tourne autour de la Voie lactée. Finalement, on se rend compte maintenant qu'elle ne fait que passer. Avec la vitesse à laquelle se déplace cette galaxie, ce petit nuage de Magellan, on dit, bon, la Voie lactée ne pourra pas la retenir. Donc elle ne fait que passer, finalement, elle n'est pas si satellite que ça, elle n'est que de passage. Alors, ces étoiles-là, ces feuilles-là dans le petit nuage de Magellan, elles ont toutes la même particularité, c'est qu'elles sont à la même distance, puisqu'elles sont toutes dans la même galaxie. Donc, il n'y a pas de problème de distance lorsqu'on observe des différences d'éclat. Celles qui sont moins lumineuses, c'est juste qu'elles sont plus petites, et celles qui sont très lumineuses, c'est juste qu'elles sont plus grandes. C'est comme des ampoules qui auraient des ampoules de 20 watts à côté d'ampoules de 100 watts. Voilà, elles sont à la même distance. Donc les moins lumineuses, c'est parce qu'elles éclairent moins, c'est tout. C'est pas parce qu'elles sont bien plus loin. Ouais. Elles sont toutes à la même distance. On s'est rendu compte aussi que les petites avaient une variation de luminosité qui était plus rapide que les plus grosses. Donc les moins lumineuses varient très rapidement, les plus lumineuses varient moins rapidement. Voilà. Et tout cela, c'est juste une histoire de puissance. Ça veut dire que Henrietta Leafid vient de découvrir une chose, c'est que juste en mesurant la période de variation de luminosité de ce genre d'étoile-là, on connaît directement sa puissance. Donc directement sa taille, sa masse. On a accès à tout un tas de critères juste en mesurant la période de variation. Donc ça, c'est très important. Et donc c'est cette relation-là entre la période et la luminosité. Là, on est en 1908. Et ça, c'est un des piliers de la cosmologie moderne. Voilà. Alors, elle ne sait pas encore jusqu'où ira cette fameuse découverte-là, mais c'est fondamental. Edwin Hubble a même dit d'elle qu'elle mériterait le prix Nobel. Alors effectivement, on a pensé à Henrietta Leavitt pour cette superbe découverte, pour un prix Nobel. Alors on y a pensé pour le prix Nobel de 1924, et c'était alors qu'on s'est rendu compte qu'elle était déjà morte depuis 3 ans.
Bel exemple de considération.
Absolument. Voilà, c'est...
On l'a pas découvert dans son laboratoire, plein de poussière.
C'est désolant.
Oui, c'est désolant.
C'est désolant.
C'est le moins qu'on puisse
dire.
Voilà.
Donc, on a parlé de Vesto Slipher qui avait fait des découvertes fondamentales, mais son nom n'est pas passé à la postérité. Ouais. Pour Henrietta Leavitt, son nom est un peu plus passé à la postérité, mais finalement, même dans le monde des astronomes à l'époque, on ne s'occupait plus de ce qu'elle avait fait comme découverte.
Ouais.
Et on ne savait même pas qu'elle était morte.
Parce qu'à l'époque, on considérait que c'était une femme, après tout. C'est ça. C'est un peu méprisant.
Depuis,
quoi.
On a vraiment insisté sur le fait que c'est Henrietta Leavitt qui est à la base de ces découvertes-là sur les céphéides. Alors, en 1906, on commence les travaux pour le plus grand télescope du monde. Parce que le but, puisque Henrietta Leavitt a établi une relation, mais très importante, pour mesurer des distances dans l'univers, grâce à ces étoiles super lumineuses. On se dit, mais si on était capable de voir ces étoiles-là, mais encore très loin dans l'univers, pas juste dans le petit nuage de Magellan, qui finalement n'est pas très loin, mais dans d'autres nébuleuses spirales, elles sont loin ou pas? Mais si on en découvre dans M31, par exemple, de ces étoiles-là, on pourra mesurer directement la distance de M31. Et donc voilà la course, à l'époque, être capable de découvrir une céphéide dans M31. Donc il faut un instrument encore plus sensible, donc encore plus gros. Et là c'est parti, au Mont Wilson, on va enfin construire un télescope de 2,54 m. Alors pourquoi 2,54 m? Bah ça fait 100 pouces quand on parle en unité américaine.
Et oui, voilà,
il faut
ça.
Un nombre rond. 2,54 m, ça paraît pas très juste. On se dit bah,
mais pour eux,
2 m et 54 cm, pourquoi pas faire 2,50 m ou 3 m? Non, mais c'est quand on compte en unité américaine, c'est 100 pouces. Donc c'est un chiffre, c'est un nombre qui tombe juste. Et le 2 novembre 1917, le télescope Hooker du Mont Wilson voit sa première lumière. Et 1919, là c'est George Hale qui est directeur de l'observatoire
qui embauche
Edwin Hubble pour cette découverte-là. Là on l'a embauché pour ça. Il faut aller à la chasse aux céphéides dans M31. Et le but des travaux de l'observatoire de Hooker va être essentiellement la chasse aux céphéides dans ce qu'on appelle encore la nébuleuse spirale d'Andromède.
Bon, ben on va voir ça dans quelques instants. La distance de M31, tout de suite. Alors Lionel, on revient justement sur le thème de cette émission, c'est Edwin Hubble et puis cette nuit du 5 octobre 1923. Et puis vous aviez terminé il y a quelques minutes en nous parlant justement de l'embauche d'Edwin Hubble par le directeur de l'observatoire en 1919.
L'observatoire du Mont Wilson, George Hale. Alors, c'est cette course-là, le but, là, l'observatoire Hale, il a été construit spécialement pour aller à la recherche du céphéide dans M31. Ça va être quelque chose de tellement important que George Hale, par la suite, donnera son nom à un autre télescope, le suivant, le 5m08 du Mont Palomar. 5m08, pourquoi? Bah, 2m54 fois 2, 5m08, donc c'est 200 pouces.
Ouais.
Alors, si on veut faire des découvertes en astronomie, faut pas lésiner quand on veut faire un télescope un peu plus gros. De 2m54, on va pas passer à 2m55. Ça changerait pas grand chose. On passe à 5m08. Faut doubler. Et actuellement, on est dans la génération des 10m, 11m. C'est deux fois plus grand encore. Et tout ce qui est en construction, c'est des 30m. Donc voilà, faut pas hésiter hein, quand on veut vraiment faire un bond technologique, faut y aller.
On ira plus loin que les 30 mètres.
Ah, bien sûr.
Oui.
Bien sûr,
il y a pas
de raison. Pour l'instant non. Alors nous on fait un télescope de 39. Donc mais on va dire c'est quand même dans la même gamme, la même famille.
Mais
avant dans le projet initial de notre télescope de 39 mètres, c'était un télescope de 100 mètres. Mmh. Et là on s'est dit mince, ça va nous prendre trop de temps. On aimerait quand même faire un peu d'astronomie. On va pas attendre toutes ces années-là. Donc, technologiquement parlant, le 100 mètres, ça viendra pour plus tard. On s'est rabattu sur un télescope de 39 mètres qui est actuellement en construction dans le désert d'Atacama. Revenons donc à cette époque-là, 1923. On a un tout nouveau télescope, 2m54. Et le tout jeune Edwin Hubble est chargé de débusquer des céphéides dans M31. À l'époque, on ne sait pas si c'est une nébuleuse spirale dans la Voie lactée ou une galaxie bien loin par rapport à la Voie lactée. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923, Hubble va noter hein, sur des plaques photos. Alors les plaques photos ont pu être prises un petit peu avant, mais on va dire c'est ses travaux
c'est
de cette nuit-là.
Voilà.
Parmi les étoiles qu'il parvient à résoudre quand même, le télescope permet de voir des étoiles individuelles dans M31. Donc c'est dire la puissance de ce télescope-là.
Bien sûr.
Il parvient, donc il voit des étoiles dans M31 et il voit des étoiles qu'il annote d'un N. N pour Nova. Nova, ce sont des nouvelles étoiles. Là où on voyait pas d'étoiles avant, ou en tout cas très faibles, hop, d'un seul coup, il y a une étoile qui devient plus lumineuse. Une étoile comme ça, on dit, c'est une nova. On a parlé des novas dans une émission précédente.
Plusieurs fois même.
Et on a parlé de certaines novas qui sont même récurrentes. Mais lorsqu'on parle de novas récurrentes, c'est parce qu'elles sont récurrentes dans l'espace d'une vie humaine.
Ouais.
La dernière dont on a parlé, la nova de la couronne boréale, sa période, c'est 80 ans. Donc là, par contre, il va découvrir finalement une nova qui serait une nova récurrente, mais avec une période bien plus courte. Et là, il a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte, sur des plaques photos qu'il avait prises antérieurement, il se rend compte que l'une des novas, qu'il a noté N sur ses plaques photos, mais en fait, elle varie régulièrement. Ce qui, pour l'époque, n'est pas conforme
c'est
au comportement d'une nova.
Voilà.
Parce que il se rend compte que, mais ça varie sur une période de 31,4 jours. Bon, ça, c'est pas une nova. C'est une étoile variable. Et une variable que l'on peut voir dans cette nébuleuse-là, il se rend compte que, ben, c'est une céphéide. Mais là, c'est bingo. Parce que si c'est une céphéide, on va pouvoir mesurer la distance de la céphéide simplement en mesurant sa période de variabilité. 31,4 jours. Henrietta Leavitt, elle avait établi une relation qui liait la période, donc 31,4 jours,
oui,
à la puissance intrinsèque de l'étoile. C'est-à-dire, on va dire, le nombre de watts, comme sur une ampoule. Mais cette étoile-là, on peut mesurer sa luminosité véritable, celle qui arrive sur Terre. Et la différence entre sa puissance intrinsèque, qui est donnée par la relation d'Henrietta Leavitt, et la luminosité qui nous en arrive, nous, ben, on a directement la distance de cette étoile-là. Et là, d'un seul coup, ah, ben, ça change tout l'univers. M31 est à 1 million d'années-lumière. Et 1 million d'années-lumière, c'est bien plus que les limites de notre propre galaxie. Donc là, on va lever enfin l'indétermination, ce qui faisait le grand débat à l'époque. Toutes ces nébuleuses-là sont chez nous, ou certaines sont des galaxies propres. Et ben là, Edwin Hubble a la réponse.
A résolu, oui, le problème.
En 1924, il a déjà découvert 14 céphéides dans la galaxie M31. Il en a même découvert 27 dans la galaxie M33, la galaxie du triangle. Alors entre-temps, la relation d'Henrietta Leavitt avait été améliorée par Hertzsprung-Russell.
Rappelons ce qu'elle permet, la relation de
Henrietta Leavitt, c'est juste le lien entre la période et la luminosité.
Voilà.
C'est devenu une relation entre période et distance grâce à un autre astronome, Einar Hertzsprung.
Voilà. À vos souhaits.
Oui, ben c'est un Scandinave,
ouais,
d'où la difficulté. Einar Hertzsprung, qui avec son collègue Russell va faire un diagramme sur l'évolution des étoiles, qu'on appelle nous maintenant le diagramme HR, Hertzsprung-Russell. Alors, ce qui veut dire que juste en mesurant la période de variation d'une céphéide, mais qu'on voit simplement au télescope, on connaît donc la nature de l'étoile, donc son véritable éclat, On mesure après sa luminosité que l'on voit réellement depuis la Terre. On en déduit sa distance. Eh bien, avec toutes ces céphéides proches, et toutes les céphéides observées donc dans les galaxies évidemment proches, d'un seul coup, l'univers prend une autre dimension. 1929, M31 se trouve à 1 million d'années-lumière. Et les céphéides, en fait, on en a parlé, mais ce sont des chandelles standards pour la mesure des distances dans l'univers. Alors l'univers quand même proche, il faut être capable de voir des céphéides individuelles dans les galaxies. À des milliards d'années-lumière, on n'est plus capable de le faire. Là, on a d'autres façons d'évaluer la distance, de mesurer la distance dans l'univers. Mais en tout cas, toutes les galaxies qui sont assez proches, dont on peut voir des étoiles individuelles, et parmi elles, celles qui varient sont les étoiles les plus lumineuses, et ben, donc des céphéides, on arrive à mesurer des distances. Il y a des étoiles encore plus lumineuses, mais qui varient pas beaucoup, sont les supernovas. Elles deviennent brillantes une fois, et après, c'est fini. Donc celles-là sont encore plus lumineuses, et on va encore plus loin dans l'espace. Évidemment, avec les supernovas, on s'arrange pour en faire des chandelles standards qui permettent de mesurer des distances encore plus loin dans l'univers. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, avec tout ça, la loi de Hubble devient une loi qui permet de mesurer des distances dans l'univers. Et même sans avoir la moindre céphéide à voir. Pourquoi ? Parce que les céphéides que l'on voit, par exemple, dans les galaxies proches, elles nous donnent accès directement à la distance. Mais rappelez-vous les travaux de Vesto-Slipher. Lui, c'était la vitesse des galaxies. Mmh. Et on se rend compte, finalement, il y a deux paramètres. C'est la vitesse des galaxies, ça c'est le spectre qui nous le dit. Et les céphéides, c'est simplement la variation de luminosité des étoiles qui nous donne la distance. En liant ces deux paramètres-là, on se rend compte que plus une galaxie s'éloigne rapidement de nous, plus elle est lointaine. On a la distance par les céphéides, on a la vitesse par le spectre de Vesto-Slipher. Et on arrive à lier les deux. C'est Edwin Hubble qui a élaboré cette loi-là, qui relie ces deux paramètres-là pour n'en faire qu'un. Et donc, cette pierre de Rosette-là, qui était écrite en deux langues, la langue de la luminosité, la langue de la photométrie, la mesure de la luminosité des étoiles, ça c'est Henrietta Leavitt qui avait permis ce déchiffrage-là, de cette langue-là. Vesto-Slipher, qui lui avait permis de mesurer la vitesse de ces galaxies-là, en liant les deux, c'est Edwin Hubble qui a relié ces deux langues-là pour en faire une seule loi, c'est la loi de Hubble. Simplement maintenant, en mesurant la vitesse de fuite des galaxies, on a la distance. Avec un paramètre, puisque en plus c'est une loi qui est linéaire. C'est-à-dire, si une galaxie va deux fois plus vite, c'est qu'elle est deux fois plus éloignée. C'est linéaire et le paramètre, bah, c'est la constante de Hubble. Qu'on est toujours aujourd'hui en train d'essayer de déterminer. C'est-à-dire que c'est sur ce paramètre-là qu'on a encore des choses à affiner pour l'avoir le plus précis possible. Quand on se rend compte que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, ben finalement, il y a d'autres astronomes après qui se sont dit, mais si elles s'éloignent, c'est qu'elles fuient toutes. Mais là, c'est l'expansion de l'univers. Donc on voit bien que, ça y est, on a mis le doigt dans un engrenage. Ces petites nébuleuses spirales qui étaient, soi-disant, dans notre galaxie pour certains, non, sont très loin de notre propre galaxie, l'univers a pris une certaine dimension. Vesto-Slipher s'est rendu compte que, mais en plus, elle fuit. Ça veut dire que la dimension augmente. Donc, il y a une expansion de l'univers. Donc, d'autres, après, sont allés jusqu'à dire, mais si elle fuit toutes, c'est qu'avant, tout était plus réuni. Donc, il y a eu un moment dans le passé où tout vient d'un rien, le Big Bang. Donc ça, c'est Georges Lemaître qui a élaboré cette expansion de l'univers qui vient d'un univers primitif qui aurait été rikiki dans l'atome primitif. Après, ce sont les détracteurs de cette théorie-là qui ont dit bah, « c'est comme s'il y avait eu une énorme explosion initiale ». Franchement, on n'y croit pas. Comme un Big Bang. Donc c'est ça, c'était la BBC, ça. Et donc, oui, Big Bang, c'est né de là. En fait, toute la cosmologie moderne est née grâce à cette observation-là dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923, une étoile qui varie dans la galaxie d'Andromède, mais toutes les bases avaient été données par Henrietta Leavitt d'une part, Vesto-Slipher d'autre part. On a pu enfin mesurer la vraie taille de l'univers et en plus, son dynamisme. L'univers n'est pas statique.
Eh ben voilà, on en sait un peu plus. Merci Lionel pour cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles.